proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Michel Gad-Volkovitch sous la direction de Qui paraît, l'affaire Sarah Halimi ou l'éradication du sujet chez David Reynarque Édition. Bonsoir Michel Gad.
Bonjour Sandrine, merci de m'inviter.
Avec plaisir, vous savez que vous êtes toujours le bienvenu ici. Vous êtes psychanalyste, professeur de psychopathologie et vous êtes également le président de Chibolette, actualité de Freud, une association qui promeut des échanges transdisciplinaires pour sonder, mais aussi mettre en œuvre une clinique du contemporain. En préambule, est-ce que vous pourriez réexpliquer aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom ce qu'est Chibolette Actualité de Freud, quelle est sa démarche ?
Écoutez, j'ai créé avec quelques autres Chibolette Actualité de Freud en 2008, je crois, officiellement. Il y a une préhistoire à Chibolette que je ne vais pas répéter aujourd'hui, qui date quand même des années 2000 où, avec des collègues, on avait commencé à faire des colloques pour lutter contre l'antisémitisme, le boycott qui commençait à être actif des universités israéliennes à l'époque. Ça sentait pas très bon en France, dans les universités, dans les institutions, etc. Donc on a commencé à faire des colloques entre la France et Israël. Le choix que j'ai fait, c'était de penser que lutter contre l'antisémitisme et l'antisionisme, c'était de passer par des tas de sujets, pas forcément directement liés à ça, pour attirer un certain nombre de gens qui n'étaient pas forcément sensibles à ça, qui étaient quelquefois même opposés, mais de les attirer sur d'autres sujets et qui les familiarisaient avec notre pensée, avec notre façon de démarcher sur certains sujets, comme la parentalité, comme le féminin, comme des tas d'autres choses, de la clinique du contemporain, justement. Et je crois qu'on a attiré un certain nombre de gens comme ça, qui au départ n'étaient pas forcément sensibles et même sympathiques par rapport à ce qui était important pour nous. Et si je dois avoir un certain bonheur, une certaine fierté dans cette démarche, c'est, je crois, d'avoir réuni un certain nombre d'intellectuels juifs et aussi non-juifs, psychanalystes et non-psychanalystes de toutes les disciplines, pour aborder des gens formidables, je crois, impliqués, pas seulement formidables et intéressants, mais impliqués dans cette démarche, et qui viennent au colloque, au séminaire en France, qui viennent en Israël, etc., pour participer à ces sujets. Je signale tout de suite que le prochain colloque en Israël, à l'université Bar-Ilan, sera « Il sexuel aujourd'hui ». Vous voyez que le sujet peut rassembler beaucoup de gens, et évidemment, en particulier, la psychanalyse, la pensée juive, la création, la littérature, la science, etc. Voilà.
Alors, vous l'expliquez bien, il y a le fond, il y a ce contexte, les thématiques abordées, et il y a comme un esprit aussi de Chibolette pour y avoir participé.
Oui.
Un lieu de rencontre où des gens d'horizons totalement différents dialoguent avec bienveillance, dans le souci de faire avancer les idées. Est-ce que c'est un peu ça la marque de fabrique de Chibolette? Et finalement, on pense un petit peu à ce qui s'est passé dans les années d'après-guerre et ce fameux colloque des intellectuels juifs de langue française, dont on cherche vraiment beaucoup, cherche la recréation. Ouais. Est-ce que c'est pas Chibolette, tout simplement?
Écoutez, Sandrine, vous êtes une spécialiste de ça, donc vous savez mieux que ça. Moi, je ne connais pas très bien ces colloques d'après-guerre, mais je crois effectivement qu'il y a un plaisir de penser. Honnêtement, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de mes collègues et de mes camarades ont beaucoup de travail. Si on s'investit de façon aussi constante dans la démarche de Chibolette et de ce travail collectif de Chibolette, c'est qu'on y trouve beaucoup de plaisir à penser ensemble, à réfléchir ensemble, à décrypter les choses ensemble. Chacun venant de disciplines différentes, comme je l'ai dit, mais aussi à l'intérieur des disciplines, de filiations de pensées différentes, de façons de penser différentes. Et c'est vraiment des lieux de rencontre, des lieux où on croise les regards, on croise les pensées. Alors évidemment qu'il y a quand même un fond commun, il y a des choses qui nous sont à chacun. Il y a un fond commun qui rejette un certain nombre de choses. Les extrémistes, évidemment, qu'on ne va pas forcément nommer aujourd'hui, quoique dans le sujet après, qui concerne le livre-ci. Je crois qu'on a un plaisir de se retrouver, de se retrouver nombreux d'ailleurs. Et puis il y a une particularité quand même, qui est que à la fois, je crois qu'il faut être rigoureux dans nos présentations, dans nos réflexions. Et effectivement, vous avez participé aux Figures du Mal, au colloque des Figures du Mal. Et j'espère que vous participerez à d'autres. Et en même temps, ce qui réunit effectivement des spécialistes de ce qui est engagé, mais aussi un grand public. Et je crois que c'est un talent que moi, je n'ai pas forcément naturellement et au départ de pouvoir expliquer clairement les choses à n'importe quel public. Et là, je crois que c'est une réussite quand même qui fait qu'on a vraiment tout public et chacun en tire ce qu'il veut, ce qu'il peut, et avec son libre arbitre. Et c'est vraiment des rencontres joyeuses, quoi, en général.
Alors, est-ce que cette réussite, pardon, ne rejoint pas un des points communs de tous ces intervenants et le vôtre, c'est que de dire que le judaïsme n'est pas un particularisme, mais que questionner ces thématiques-là liées au monde juif, eh bien, concerne l'humanité en son entier, l'Occident, comme aurait dit Lévinas, la culture universelle. Est-ce que c'est ça? Le particularisme juif n'en est pas un, et s'intéresser à ces questions-là, eh bien, intéresse l'universel.
Oui, vous avez raison. Moi, je le dirais un petit peu autrement, c'est-à-dire, je pense que le... Écoutez, moi, il y a une phrase, par exemple, de Raphaël Drey que j'adore, que vous adorez aussi, où il paraphrase la définition de Freud du travail de culture. Hein, travail de culture, c'est pas simplement accumuler des connaissances et les exposer, c'est vraiment un travail de réflexion, de remise en question, de critique, de reprise sans cesse ou rien, où la pensée est toujours indéfinie, et elle est infinie et indéfinie, et qui ouvre toujours sur autre chose. Et la phrase de Freud, pour définir ça, c'est « Wo es war, soll ich werden », c'est-à-dire là où il y a le « ça », c'est-à-dire l'inconscient, le « je », c'est-à-dire la conscience doit advenir, c'est-à-dire on doit travailler le terrain sans cesse. Walter Benjamin disait ça autrement. Hein. Ce n'est pas tellement ce qu'on trouve dans le sol qui change quelque chose, c'est le travail lui-même, c'est le changement du sol, le travail du sol qui change notre rapport aux choses. Et Raphaël Drey disait « Wo Canaan war, sol Israël werden », c'est-à-dire là où il y avait Canaan, Israël doit advenir. C'est-à-dire, et Shibboleth, la traduction, vous la connaissez, c'est épi de blé, c'est-à-dire je l'ai choisi parce que c'est le travail de culture. Travail de culture de la terre, évidemment, c'est-à-dire ça se mérite, cette terre, elle n'est pas donnée une fois pour toutes, on doit la mériter, on doit la mériter par le travail, mais aussi par le travail, évidemment, intellectuel et spirituel. Et je crois qu'on a à faire ça, c'est-à-dire quelque chose à partir de notre particularité juive ou autre chose, d'ailleurs. Chacune des disciplines, chacune de nos filiations de pensée, il y a un singulier qui peut devenir universel, c'est-à-dire on propose au fond à chacun, à partir de notre expérience personnelle, notre geste de pensée, d'en tirer quelque chose à lui, dans sa culture, dans sa langue, dans sa démarche, etc. Je pense que cet universel du singulier participe justement d'un vrai travail de subjectivation. Hein, c'est-à-dire on est je crois que quand on étudie quelque chose, bien sûr qu'il faut être le plus objectif possible par rapport à tout ce qu'on peut connaître sur cette chose et découvrir, mais il faut toujours être conscient de quel rapport on a avec cet objet, quel rapport on a avec nos théories, avec nos dogmes aussi, puisque quelquefois, sans qu'on s'en rende compte, nos théories se figent en dogmes, hein, parce qu'on a besoin de certitude, on a besoin de se rassurer, on a besoin de convaincre, etc. Et je crois qu'à chaque fois, il faut resubjectiver notre rapport à cet objet-là et à notre démarche. Je crois que le judaïsme, en tout cas la pensée juive... Alors moi, je n'aime pas beaucoup dire ça parce que c'est comme si c'était générique. Je pense qu'il y a des juifs qui sont sortis d'Égypte au sens symbolique du terme, et puis il y a des juifs qui ne sont pas sortis d'Égypte, qui sont dans l'idolâtrie aussi, on en connaît, et on peut l'être, nous, temporairement, hein, et qu'il faut résister à ça. Et puis, il y a des non-juifs qui ont cette démarche aussi de subjectivation et de ce type de démarche par rapport à l'objet, et qui, d'une certaine façon, essayent de sortir d'Égypte.
Alors, ce singulier pluriel s'illustre, hein, dans votre actualité, la raison de votre venue aujourd'hui, la parution de l'ouvrage L'affaire Sarah Halimi ou l'éradication du sujet. Alors déjà, pourquoi ce choix de revenir à cette affaire traumatisante? C'était d'abord un forum, une rencontre de spécialistes, oui. Et c'est devenu les actes de cet ouvrage.
Écoutez, parce qu'elle est traumatisante. Vous avez, je crois que c'est le mot. Le premier forum que j'ai organisé avec Shibboleth il y a 4 ans, c'est-à-dire quelques mois après qu'on ait eu connaissance de cet acte barbare, on l'a fait au Centre Rachi. Et on l'a fait au Centre Rachi parce que tout le monde était traumatisé. Traumatisé par, évidemment, cet assassinat barbare qui en répétait d'autres. Je crois que c'est le traumatisme, c'est l'acte lui-même, mais c'est aussi la répétition. D'ailleurs, le nom Halimi a quand même participé de ce traumatisme et de la prise de conscience de ce traumatisme. C'est-à-dire, c'était 10 ans après Ilan Halimi. Mm-hmm. Hein, et que d'une certaine façon, on était dans le même. On était dans le même. Alors, et dans le même, pas seulement de l'acte, mais dans la même réaction. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir aussi que quand on a su qu'Ilan Halimi avait été enlevé et assassiné, il y a eu effectivement la même indifférence, le même déni de la part de la presse, de la part des politiques, de la part des policiers aussi, etc. il y a eu la même chose. Alors, ça aboutit à un procès, quand même, à un certain moment. Mais au départ, c'était la même chose, le déni de l'antisémitisme, etc., etc. Quand je dis déni de l'antisémitisme, j'insiste sur le déni, parce que pour moi, chercher à tout prix qu'un acte est antisémite, c'est intéressant pour essayer de l'analyser, mais le faire reconnaître juridiquement comme une circonstance aggravante, je trouve que c'est une erreur fondamentale. Et en fait, ça apaise effectivement la communauté juive de faire « on reconnaît ce qui vous est arrivé ». Mais je trouve que ce n'est pas une bonne démarche. On en reviendra peut-être après. Je pense qu'on est avant tout attaché à la justice et à la reconnaissance de la justice. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Et que chercher à tout prix cette reconnaissance, je pense que ça a brouillé d'ailleurs un peu les pistes. Alors tout ça pour dire que donc, on a assisté il y a 4 ans, il y a 5 ans maintenant, à ce déni, à ce silence assourdissant, hein. Je crois qu'il faut se rappeler que le premier média qui a parlé de cette affaire, ça a été 2-3 mois plus tard, après l'assassinat, c'était Le Parisien pour dire la défenestrée du 11e arrondissement. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nom. Il n'y avait pas d'acte, il n'y avait pas de nom circulé, il n'y a rien à voir finalement. C'est un fait divers. C'est resté un fait divers. Hein. C'est resté un fait divers jusqu'au bout, finalement. La police, on le sait, enfin, je ne vais pas revenir sur les actes, tout le monde le connaît, mais je crois qu'il faut le rappeler quand même, la police n'est pas intervenue. La juge d'instruction a d'emblée fait de la désinstruction, c'est-à-dire vraiment d'emblée, elle a dit non. Non à la reconstitution, non à la responsabilité, elle l'a tout de suite mis à l'hôpital psychiatrique avant même qu'un psychiatre le voie et qu'un expert le voie. Non à la qualification d'antisémitisme, encore une fois, non pas que je suis attaché à cette qualité juridique, mais je pense que pour comprendre un acte, pour le situer dans un contexte, évidemment, c'était important de le faire, et là, c'était quand même très manifeste. Donc on a fait ce livre à l'époque qui était Le Nouvel Antisémitisme en France, qui n'était pas forcément un bon titre parce qu'il n'était pas nouveau justement, on aurait dû montrer que ce n'était pas nouveau, mais l'éditeur y tenait à l'époque, qui a fait du bruit, qui a engagé un débat dans les journaux, puisqu'on avait fait aussi une sorte de tribune qui a été signée par beaucoup de gens. Malheureusement, on s'aperçoit que ça n'a pas débouché sur quoi que ce soit, hein. L'antisémitisme n'a pas régressé, les institutions ne se sont pas affermies, etc. Bon. Et effectivement, il y a ce crime-là, après bien d'autres, Toulouse, etc., enfin, je ne vais pas les rappeler. Et puis, il y a cette sorte de répétition du silence, du déni. Et ce titre est là, c'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment une extermination physique, d'ailleurs, c'était une extermination absolument barbare de Madame Halimi. D'ailleurs, je pense important de la rappeler. Mon ami Daniel Dayan le rappelait au forum, de l'appeler le docteur Sarah Halimi, c'est-à-dire de lui rendre son statut social, de lui rendre son nom, de lui rendre son histoire. C'est important.
Alors, si vous me le permettez, on va revenir au choix du titre et du sous-titre. L'affaire Sarah Halimi ou l'éradication du sujet, le symbolique et le sujet en question, une affaire française. Est-ce que ça veut dire, par ce titre, que finalement, cette affaire Sarah Halimi cristallise toutes les haines qui peuvent se heurter aux individus, qu'ils soient juifs ou pas juifs? Une affaire française.
Oui. Alors, effectivement...
On ne voit pas le mot juif, en fait, dans le titre.
Non, oui. J'ai fait exprès. Écoutez, oui. Parce que d'abord, j'avais mis l'existence juive. C'était d'ailleurs un peu dans le titre du forum qu'on avait fait avant, oui. L'extermination du sujet juif ou de l'existence juive, je l'ai enlevé parce que je pense que la portée de cette histoire, c'est vraiment un bouleversement culturel, anthropologique, juridique, humain de cette histoire. À savoir que les institutions républicaines ont totalement cédé. Et là, je crois qu'il faut transcender la question de l'antisémitisme parce que ça se passe à propos d'autres sujets. À propos de la parentalité, à propos de... etc. Il y a un déni du réel et il y a le droit aujourd'hui s'étaye au fond sur la science qui elle-même s'étaye sur les demandes des gens, sur l'imaginaire des gens, sur les fantasmes. Ce qui aboutit d'ailleurs à un paradoxe, on le voit par exemple pour tous les... Moi j'ai l'occasion de voir des adolescents, des enfants, des adolescents et donc des familles où on parle beaucoup effectivement de ce qui est contaminant aujourd'hui. Il n'y a pas que le Covid, c'est aussi la question du transgenre, la question de l'identité sexuelle qui touche vraiment tous les enfants et tous les adolescents. C'est une épidémie, hein. Alors, il y a toujours eu des fantasmes comme ça. Ça fait partie de ce qu'on appelle des théories sexuelles infantiles où les enfants, les adolescents se posent des questions sur leur identité, veulent et imaginent être des filles, voudraient être des filles, voudraient être des garçons parce qu'ils pensent effectivement que c'est mieux, parce que ça leur éviterait des choses, enfin, etc., etc. Et puis, quand les institutions valide ça, c'est-à-dire oui, bah effectivement, on a vu ce documentaire incroyable qui s'appelle Petite fille, je ne sais pas si, oui. qui a eu succès, qui est absolument à mes yeux consternant et scandaleux, à savoir qu'effectivement on fait dire à une petite fille qu'elle veut devenir garçon, encore une fois, c'est très courant, ça fait partie du fantasme, de l'imaginaire et tout ce qu'on veut. Évidemment, on comprend très bien que c'est le désir, pas seulement inconscient, mais conscient de la mère. Et on voit la pédopsychiatre qui épouse complètement, par idéologie, par complaisance, par gentillesse aussi, pour la mère, enfin, etc., qui épouse ça comme si c'était un discours du vrai, hein, comme si c'était pour de vrai. Hein. C'est-à-dire qu'on écrase effectivement toute la dimension du psychique, du fantasme, etc. Là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les institutions... cède, alors on peut se demander pourquoi les institutions et ses représentants cèdent effectivement à l'ère du temps, hein, à l'ère du temps, aux demandes, à la tyrannie de certaines minorités, soit par terreur, soit par complaisance, soit par peur, soit par complaisance idéologique aussi, cèdent petit à petit effectivement aux demandes les plus pressantes ou aux pressions les plus violentes et les plus terrorisantes des gens. Et là, je crois que c'est un problème beaucoup plus large que celui de la haine antisémite, même si on sait que ça s'exerce en particulier et d'abord souvent comme une sorte d'expérience, de paquet expérience. Donc oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas le mot juif dans le titre, parce que la question de l'antisémitisme et du passage à l'acte antisémite, parce que c'est ça qu'il faut interroger, comment le passage à l'acte antisémite est possible et est possible de façon épidémique. Et à partir du moment où, effectivement, il n'est pas nommé, où il est déresponsabilisé, on connaît les loups solitaires, on connaît les déséquilibrés, ça ne date pas de ce Traoré-là. Hein. On est dans un mouvement depuis des années de déresponsabilisation et de mise en neutralité de ça.
Il faut rappeler juste au passage qu'au tout début de l'affaire, même les instances du judaïsme français ont douté hein, du caractère antisémite hein, et du calvaire subi par Sarah Halimi. Et ça fait sans doute sens. Alors, il y a un ensemble de spécialistes hein, qui ont travaillé avec vous sur ce sujet. On peut citer les noms. Voualem Sensal, Sarah Catan, Gilles-William Golnadel, Richard Prasquier, Georges Bensoussan, Daniel Dayan, Jacques Tarnero, Jean-Pierre Winter, Elie Chouraki, Steve Suissa, Monette Vaquin, Daniel Siboni, Yves Mamou, Jacques Amar, Thibaut Moreau, Claude Birman, Noémie Aliwa, Michel Gadvolkovitch. Donc vous, avec cette particularité que vous rappeliez tout à l'heure, cet esprit hein, de Chibolette, de faire converser ou en tout cas de faire dialoguer des spécialistes d'origine différente, mais il y a un consensus hein, dans ce sujet. Les aberrations du dossier entre déni de réalité, de justice, de morale, pourquoi autant de défaillances dans ce dossier? Est-ce qu'on a des réponses à ces questions?
Alors, est-ce que c'est des défaillances, effectivement, c'est le terme générique maintenant. Effectivement, quelle est la nature de ces défaillances hein. Moi, j'ai vu quelques auditions à la télé, je ne sais pas si vous les avez vues, qui sont extrêmement significatives et implacables. Alors, on ne sait pas si les policiers avaient l'ordre ou pas l'ordre d'intervenir, alors qu'on sait manifestement qu'ils savaient ce qui se passait, qu'ils auraient pu intervenir matériellement, il n'y a aucun problème, et ils savaient très bien ce qui se passait. Ils ne sont pas intervenus. Est-ce que c'est un ordre ou pas? On n'en sait rien, c'est pas clair. Qui avait de la peur, c'est manifeste. Un policier qui a été interviewé a parlé de sa peur. Hein. La justice, alors, c'est le juge d'instruction, manifestement, d'après l'histoire un peu qu'on connaît de sa vie, de ses liens, etc., probablement qu'il y a une certaine complaisance idéologique hein, avec l'islamisme. Ou en tout cas une volonté d'expliquer les passages à l'acte, c'est-à-dire de justifier les passages à l'acte, etc. Bon. On a vu que le parquet a insisté sur elle pour qu'elle concède la qualificatif d'acte antisémite. Je pense que c'était une façon, je crois qu'on peut le voir maintenant, comme une sorte d'écran de fumée, c'est-à-dire on a voulu apaiser la population, oui. On leur a donné ça, et d'ailleurs ce qui est assez fou à mon avis, c'est que les gens ont été apaisés, ont été contents. Oui, ça a été reconnu comme un acte antisémite. Je crois que les Juifs, effectivement, ont cette qualité de bienveillance, mais qui est quelquefois de la naïveté, c'est-à-dire quand on reconnaît qu'ils ont été victimes de quelque chose, on reconnaît quelque chose et ils fondent. Alors on peut comprendre ça, mais en même temps, je crois que c'est beaucoup de la naïveté et on s'aperçoit que c'était un écran de fumée parce que le parquet aurait pu dessaisir cette juge qui manifestement n'a pas suivi, même s'ils ont une certaine autonomie, on le sait, n'a pas suivi du tout les règles habituelles de l'instruction, notamment cette histoire de reconstitution qu'elle a refusée. Et alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qu'on a entendu, c'est que la première raison pour laquelle elle a refusé cette reconstitution, pour laquelle tout le monde était d'accord, y compris l'avocat de la Défense d'ailleurs, hein, personne n'était contre ça, c'était par crainte pour l'accusé, hein, pour le présumé assassin, par crainte qu'il lui arrive quelque chose, qu'il soit trop sensible, le pauvre. Ou même que la communauté juive se venge, parce qu'on sait très bien en France que la communauté juive est violente, oui. Et fait aussi des attentats et tue des enfants musulmans ou chrétiens quand ils vont à l'école, c'est très connu. Donc voilà, il y a quand même une mauvaise foi extraordinaire, ou un aveuglement en tout cas, une cécité volontaire de cette femme extraordinaire. Mais le parquet elle, n'a pas dessaisi, ou n'a pas nommé un autre juge en même temps. Bon. La presse, voilà, on ne va pas revenir dessus. Il y a eu une série d'écrans de fumée comme ça, jusqu'à, je crois, la proposition du président de la République de promulguer une nouvelle loi qui aurait permis, quand on a su qu'il ne serait pas jugé, qui aurait permis de juger, soi-disant, cet assassin. Or, tous les juristes sérieux s'accordent pour dire qu'il aurait pu être tout à fait jugé avec la loi précédente. Rien n'empêchait de le juger, quitte à ce qu'à la fin des assises, il soit jugé irresponsable et qu'on le mette en hôpital psychiatrique ou autre. Mais rien n'empêchait un procès public. Et je crois qu'on a évité, effectivement, un procès public qui aurait été autre chose que simplement juger l'acte d'un individu. Ça aurait été remonter la généalogie du crime, ça aurait permis de remonter publiquement la généalogie du crime, c'est-à-dire de quoi il est nourri, parce qu'un acte antisémite, comme n'importe quel passage à l'acte, est nourri d'un discours inconscient ou conscient, d'un discours idéologique, d'un discours culturel, etc. Et je pense que ça aurait été intéressant de voir effectivement de quoi il est nourri, de quoi cet acte a été nourri, qu'est-ce qui a fait qu'il est passé à l'acte de cette façon-là. Évidemment l'islamisme, évidemment la mosquée où il va, il allait deux fois par jour, y compris le jour même du crime, etc., etc. Les voisins aussi, son entourage, la juge et la police n'ont absolument fait aucune instruction, n'ont pas relevé les témoignages, n'ont pas interrogé les voisins, rien du tout. Il n'y a pas eu d'enquête du tout. Maintenant, je crois que à l'audition, on a vu certains experts, notamment Maître Medjer, Nathanaël, qui a montré, qui a reconstitué les choses et qui a montré que c'était très prémédité. Très prémédité, il avait préparé ses affaires, il les a mis chez le voisin, etc. etc. Voilà, les enquêteurs n'ont rien fait, ni les policiers, ni la juge d'instruction. Donc on n'a eu que des écrans de fumée quand, effectivement, on a appris qu'il ne serait pas jugé par la... et que soi-disant on n'avait pas le droit de le juger et qu'il passe aux assises avec cette loi. On a parlé d'une nouvelle loi, mais c'est un écran de fumée. Et jusqu'à la commission, jusqu'à la comment on appelle ça, la dernière commission qui a validé le jugement, là aussi c'est un écran de fumée, parce que évidemment il pouvait très bien revenir derrière. C'est-à-dire qu'on a été trimballé quand même pendant 4 ans en nous faisant croire que c'était les seuls responsables étaient l'EH et la loi, qui n'avaient pas d'autres responsables, ni l'idéologie, ni le criminel, ni l'idéologie, ni le milieu, ni tout ça, ni la culture, pour éviter un débat public, pour encore une fois essayer de remonter, de décrypter cet acte comme faisant partie d'un contexte beaucoup plus large. Et on a refusé d'en faire un truc public, un débat public, une réflexion publique. Ça, c'est grave. Et ça dépasse encore une fois la communauté juive, ça parle de la République française, où on en est, c'est-à-dire que où en est la psyché collective française, c'est un peu ce que j'interroge moi, où en sont les institutions françaises républicaines qui sont là pour quand même, pour qu'on vive en société, pour qu'on puisse vivre en société, ce qui est différent du vivre ensemble. Le vivre ensemble, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de tiers. Le vivre en société, il y a des lois auxquelles tout le monde, etc. Le vivre ensemble est un concept, Noémie Alioua qui fait son article là-dessus, qui est un article excellent, effectivement différencie ce qu'engage le vivre ensemble par rapport au vivre en société. Et là, l'absence de procès montre effectivement qu'on ne veut plus en société, et c'est en ça qu'on est dans un moment de crise. Est-ce qu'on peut appeler ça de crise, parce que ça dure depuis une vingtaine d'années quand même, où les institutions ne jouent plus leur rôle du tout et que l'ensemble des institutions ne jouent plus leur rôle. Pourquoi, effectivement, est-ce que c'est par peur, sans doute, par collaboration, sans doute, je crois malheureusement par complaisance aussi, par électoralisme, on sait, dans des lieux particuliers, Par complaisance idéologique, je crois qu'il faut se rappeler, ça c'est un travail qu'on a fait à Chibolette depuis longtemps, avec Philippe Val, avec Pascal Bruckner, etc., depuis longtemps sur le totalitarisme, c'est-à-dire la relation de l'intelligentsia française avec le totalitarisme et avec tous les totalitarismes depuis la fin du 19e siècle, c'est-à-dire le marxisme, le maoïsme, le nazisme, etc. Une bonne partie, effectivement, ce que Raymond Aron a essentiellement dénoncé en France, ailleurs, bien sûr, Orwell, Huxley, etc. Mais effectivement, on a choisi Sartre contre Montaron, on connaît cette phrase, et malheureusement, elle est vraie, elle pèse, et elle pèse encore. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette attirance? Alors, est-ce que ça vient d'où, la Révolution française? J'en sais rien, je ne suis pas historien, et je peux faire que des hypothèses et faire travailler les autres là-dessus. Mais il y a effectivement quelque chose qui fascine chez les intellectuels, ce qu'on appelle les élites, les autoproclamées élites, comme disent certains, qui fascine dans les idéologies totalitaires et qui dépasse la peur, et etc. Je pense que toutes ces hypothèses sont au travail et je pense qu'elles méritent un vrai débat. Quoi. Ce livre essaye d'engager le débat parce que finalement, on ne parle plus de l'affaire Halimi, là. Depuis, on en a parlé à la suite des comptes rendus des commissions, mais au fond, c'est fini. On ne parle plus de la nouvelle loi, qu'est-ce qu'elle engage, etc. Et du tout. Et la commission, alors je finis là-dessus. Oui. Et ça, je veux dire, je veux rendre hommage à Meir Habib qui a fait un travail extraordinaire, un courage et un travail extraordinaire avec cette commission parlementaire, comme il le fait pour d'autres sujets d'ailleurs. Et lui qui a dirigé les auditions, qui a invité avec d'autres, avec le député de je ne sais plus comment il s'appelle, de Sarcelles. Ils sont 4-5, ont fait un travail formidable et qui aboutit à cause d'une résistance incroyable de la part d'autres députés qui ont participé à cette commission, qui ont refusé d'ailleurs d'aller sur les lieux. Il y a une partie qui ont refusé d'aller sur les lieux et qui aboutit à rien. C'est-à-dire cette commission ne parle même pas de défaillance, ne parle même pas de dysfonctionnement. Le mot n'existe pas, alors que le moindre... Je veux dire, au-delà ou en deçà de toute interprétation, le dysfonctionnement est quand même la moindre des choses à noter. La commission simplement met des petits pansements cosmétiques en disant on peut améliorer le système pour que ça n'arrive plus de la même façon la prochaine fois. On en est à un stade quand même très grave de carpette, quoi. Il faut le dire comme ça. Hein. Ce qui m'a mis, moi, très en colère, à la fois on a assisté à l'enterrement de ce procès, à l'enterrement de cette affaire, c'est-à-dire à l'éradication du sujet, de Sarah Halimi.
Alors justement, j'ai une question à vous poser sur ce sujet-là.
Voilà, et en même temps, on a assisté à des discours, puisque c'était après la guerre avec le Hamas, on a assisté à des discours du Premier ministre, du ministre de la Défense, qui condamnait Israël pour apartheid, l'autre en rend complètement responsable Israël de tuer des enfants, etc. D'ailleurs, on en voit les conséquences. Oui. C'est chaque fois que les institutions cèdent, ça s'étend. On voit le rapport d'Amnesty International.
Alors,
c'est
j'allais
pas
vous
sûr
poser une question
que
sur
ce rapport
le sujet.
Serait paru de cette façon si certains gouvernements, dont le français, n'auraient pas réagi comme ça, etc. L'attitude du président de la République quand il revient d'Israël, etc. Enfin, voilà, il y a pour le moins quelque chose où il y a un paradoxe où on devient fou. D'un côté, effectivement, on refuse de reconnaître un acte criminel, de l'autre, on accuse Israël. Je crois que cette concomitance est quand même importante à constater.
Alors, j'allais vous poser une question justement sur les attaques génocidaires menées par le Hamas et le lien avec l'affaire Sarah Halimi, mais juste une question auparavant. Vous parliez du silence autour de cette affaire. Il y a eu l'affaire Ilan Halimi, vous l'avez dit en introduction, le même nom de famille. Est-ce que justement le fait de porter le même nom de famille a pu lui porter préjudice pour rendre une justice juste? Et puis il y a ce prénom de Sarah qui n'est pas n'importe lequel. C'est le premier prénom de la matriarche originelle biblique, la matriarche première qui donne naissance à Isaac et au peuple juif, qui est donc l'épouse d'Abraham, qui chasse sa servante Agar, mère d'Ismaël, qui est l'ancêtre des arabo-musulmans. Est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi symbolique dans cette histoire?
Alors, je ne pense pas que le criminel y ait pensé, mais il baigne dedans. Il baigne effectivement dans cette pensée-là, dans ce langage-là. En même temps, d'ailleurs,
le criminel et les autres aussi, le fait d'expurger finalement cette affaire Sarah Halimi. Sarah et Halimi, c'est trop.
C'est trop, et on en fait le nom de personne, comme je l'ai écrit. C'est-à-dire, effectivement, ce nom symbolique qui est, comme vous le dites, au fond, dans l'imaginaire, dans la généalogie, au fondement de la filiation juive. C'est ça qu'on supprime. D'ailleurs, quand on coupe la tête, puisque là, c'était malheureusement l'anniversaire de la décapitation de Daniel Pearl, quand on lui coupe la tête, en lui faisant dire « je suis juif », c'est-à-dire on décapite une filiation, évidemment, une pensée, une filiation. Quand on tue des femmes, des mères, comme Sarah Limi, comme Mireille Knoll, etc., on coupe une filiation. Je pense qu'encore une fois, le criminel n'y a peut-être pas pensé consciemment. Je vais tuer une mère juive parce qu'il n'y aura pas d'autres enfants, etc. Mais je pense, comme vous le dites, qu'effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là qui circule, qui fonctionne dans certaines cultures et qui parle de ça. J'ai écrit que le négationnisme et le révisionnisme ne sont pas seulement des conséquences de l'extermination, mais en sont des causes. C'est-à-dire, effectivement, quand on extermine les juifs, on extermine et qu'on nie l'extermination. D'ailleurs, en général, ceux qui nient l'existence ne le nient pas vraiment, puisque le paradoxe, c'est ça n'a pas existé, mais ils auraient dû aller jusqu'au bout. C'est toujours où on devrait le faire. Donc, en fait, c'est un négationnisme bizarre. C'est le paradoxe, effectivement, et ça montre effectivement la folie. Mais au fond, pourquoi on extermine les juifs? On extermine les juifs pour exterminer une histoire antérieure, pour exterminer une filiation qui nous a précédés. Je crois qu'il faut se rappeler que dans l'islamisme, c'est... Rien d'autre n'a existé, rien d'autre. La nature, naît avec l'islam. Le reste, c'est des erreurs de la nature. Ça n'a pas existé ou c'est des erreurs de la nature. C'est pour ça que les conversions à la religion musulmane sont si faciles. On reconnaît une erreur de la nature, donc on la répare, etc. Donc, il n'y a pas d'antériorité et il n'y a pas de postériorité. On est dans une transmission clonique ou clanique que faisaient les nazis aussi. C'est-à-dire cette sorte de millésime... On est là pour 1000 ans, hein, l'éternité, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antériorité et il n'y a pas d'extériorité. Il y a une haine de la transmission comme une transmission vivante qui se transforme, qui crée, etc. On est dans ces idéologies. Donc effectivement, le mot Sarah y est pour quelque chose, etc., etc. Vous avez raison.
Alors j'allais vous parler de plein de choses, mais je vois que l'heure tourne. C'est toutes ces signifiants dont vous avez parlé et puis l'importance de relier à la symbolique des attaques menées par le Hamas sur Israël. D'ailleurs, lors du forum consacré à Sarah Halimi, je crois que la première partie était consacrée à ça. Bon, on pourra peut-être y revenir, ou les auditrices et les auditeurs, en lisant votre livre, pourront y trouver les infos qu'ils recherchent. Finalement, quel est le message qui pourrait être véhiculé par ces actes de ce forum et qui rejoindrait les activités de Shibboleth? Alors, on le rappelle, hein, Shibboleth, vous l'avez dit, qui propose un grand nombre d'actions, des colloques, des conférences, des forums, des ouvrages. Et en même temps, vous nous direz comment on peut vous suivre et suivre toutes vos activités.
Bah écoutez, déjà, d'un truc pratique pour nous suivre nos forums, pour ceux qui ne reçoivent pas nos mails qui sont quelquefois un peu envahissants et inondants, ça j'y suis pour rien, c'est le super webmaster qui fait ça. Le mieux, c'est d'aller sur le site www.shibboleth.fr, donc c'est Shibboleth Actualité de Freud, et vous avez à la fois le programme de l'année, d'un séminaire, on fait un séminaire annuel dans l'année, une fois par mois, et les colloques, on en fait un ou deux dans l'année, des publications, dont celle-là, qui n'est pas tout à fait la collection de Shibboleth. D'habitude, c'est aux éditions In Press, où on met les actes des colloques et des séminaires. Et puis, il y a les enregistrements vidéo de ces colloques et des séminaires auxquels les gens peuvent avoir accès librement, qui sont d'ailleurs en général aussi diffusés par Academ, puisque Academ filme la plupart de nos activités. Voilà, donc ça, on peut être au courant facilement de ce qu'on fait. Alors finalement, vous avez raison, à quoi ça sert?
Finalement,
ça sert, ouais. Absolument. Alors, moi, je me souviens de pourquoi j'ai commencé ces colloques entre la France et Israël et ailleurs, mais en tout cas autour de ces sujets. C'est parce qu'on en avait besoin pour ne pas se déprimer. On en avait besoin pour ne pas se déprimer parce que c'était lourd, que c'était dur, que c'était difficile à expliquer, que la situation n'était pas forcément celle qu'on entendait à la télé, etc. Et chez des gens de bonne foi qui entendaient effectivement... Je crois que quand on écoute la radio et la télé, c'est difficile, effectivement, de ne pas être anti-sioniste, anti-israélien. Hein. Difficile, donc voilà. Difficile d'expliquer. Donc au départ, c'était, je crois, pour essayer de se rassembler, pour essayer de penser ensemble, pour essayer d'exister, quoi, et de résister un petit peu à toutes ces attaques qui finissent par vous traumatiser et vous déprimer. Ensuite, effectivement, on peut espérer, encore une fois, en travaillant sur des sujets directement, sur ces sujets-là directement et en expliquant, en pensant, mais aussi sur des sujets périphériques où les diverses disciplines, dont la pensée juive, peuvent apporter quelque chose et ouvrir, effectivement, des perspectives aux gens de penser autrement et d'aborder les sujets autrement. Je crois qu'on touche un certain nombre de gens qui sont, une bonne fois, qui, nous connaissant et connaissant la valeur d'un certain nombre de gens qui interviennent, sont quand même attirés, ont la curiosité de venir voir, et petit à petit, ils réinterrogent un petit peu ce qu'ils croient connaître, à travers ce qu'ils entendent, etc. Donc on touche un certain nombre de gens, et j'insiste, il n'y a pas que des juifs, et c'est important. Voilà, alors lutter contre l'antisémitisme, j'y crois pas beaucoup, pour être honnête, parce que l'antisémitisme est un délire paranoïaque, absolu. Je voudrais dire aussi quelque chose par rapport au délire, parce qu'en tant que, quand même que professionnel, en tant que professionnel, je mets en doute la notion d'épisode délirant. Je veux dire, je l'ai dit, je l'écris et j'essaye de l'expliquer dans le livre. Quelqu'un qui fait un épisode délirant, et j'en ai vu beaucoup, connaît après, quand il va mieux, quand il sort de cet épisode, un épisode dépressif intense. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait un épisode délirant, quel que soit le délire, quel que soit le passé, qui ne passe pas par là. Tout simplement, c'est un peu comme quelqu'un qui a un coma. C'est très dangereux quand il sort du coma, parce qu'il se rend compte qu'une partie de sa vie lui échappe totalement, qu'une partie de son psychisme lui échappe, et que ça, c'est vertigineux, et que quelques-uns peuvent être tentés de se suicider. Ce personnage n'a connu aucun épisode dépressif, ni avant, ni après. Oui. Au contraire, vous parliez d'Ilan Halimi, il s'est comparé déjà bien avant à Fofana, c'était son pseudo, je crois, sur je ne sais pas quel réseau social, donc c'est quand même quelque chose, ça ne lui a pas pris comme ça d'un seul coup. Donc rien n'indique qu'il a eu un épisode délirant, rien n'indique le H, il a l'habitude d'en prendre, il n'en a pas pris plus que d'habitude, tout ça est faux. Alors, je pense que ça pose la question des experts, hein. Pas de Daniel Zaguri, que je connais bien, en qui j'ai une entière confiance et qui l'a vu dans certaines circonstances à un certain moment, mais des autres, évidemment, qu'on a choisi pour aboutir à autre chose, c'est absolument clair. Hein. Mais ça pose la question des experts en général, on le voit même au Covid, les gens qui se présentent comme des experts et qui s'incarnent dans des experts, on s'aperçoit quand même que c'est un problème sociologique d'une certaine façon. Hein. Donc on lutte pas forcément contre l'antisémitisme, sauf évidemment pour des gens de bonne foi qui sont abusés par certaines informations, on lutte contre les antisémites. On lutte contre l'antisémitisme. Là, je reprends certaines paroles de mon copain Michael Bartzfi à l'époque. C'est tout à fait ce qu'il disait et ce qu'il faisait, quoi.
En tout cas, merci infiniment, Michel Gad-Volkovitch. Je rappelle que votre actualité, c'est la publication de l'affaire Sarah Halimi ou l'éradication du sujet et toutes les activités passionnantes, riches et d'utilité publique de l'association Chibolette Actualité de Freud que l'on peut retrouver sur le net. Alors, je rappelle juste l'écriture de Chibolette, Schibolleth. Merci, à bientôt.
Merci. Et voilà, j'encourage les gens à acheter ce livre, non pas pour l'acheter, mais il faut que ça constitue un événement, quoi, parce que c'est effectivement, je pense qu'il y a une relance d'une réflexion, d'un débat sur la situation en Europe et en France en particulier, qui est très important et il ne faut pas lâcher, quoi. C'est pas le moment de lâcher qu'on oublie.
Hein. Voilà, donc c'est vraiment le livre à acheter, à s'offrir et à offrir pour que...
Avec Chouchani, en même temps, on continue à penser.
On en reparlera. Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci.
Au revoir.